Avertissement. Ars Macabre est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure. Ce rituel musical se veut un hommage à ce style musical dans toute sa grandeur. Nous tenons quand même à vous informer que tous les propos contenus dans les pièces présentées dans cette émission sont uniquement ceux de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la philosophie des animateurs, des chroniqueurs, des commanditaires ou des autres partenaires d'Ars Macabre. Vous êtes avisés.
Salut et bienvenue à l'épisode 252 d'Ars Macabre. Vous êtes avec Matraque encore une fois et je suis accompagné de Sarah et sa rafraîchie coupe.
Ah, oh, ben oui, mes nouveaux cheveux. Yeah. Ah oui, c'est ça. Ben bonsoir.
Donc, ben ce soir, ben, vous pourrez voir la rafraîchie coupe de Sarah dans la chronique. Ça te fait bien, sérieux?
Merci, c'est fin.
T'es les gens en personne, mais je te le dis en nom aussi.
C'est correct. Ben merci.
En fait, je t'ai dit quand t'es arrivé, ça te fait bien en personne.
En personne. Je suis lettre en photo. Mais non, je sais que c'est pas ça.
Donc, ben c'est ça. Ce soir, la thématique, c'est épisode médiéval. Donc, on va vous faire jouer des chansons qui sont en lien avec cet univers-là. Et là, évidemment, je rappelle, on a déjà fait un épisode là-dessus, mais je me répète, mais je le rappelle quand même. Tu sais, quand on pense médiéval, tout le monde se voit un peu comme soit le preux chevalier ou l'empereur. Mais tu sais, dans la vraie vie, il y en avait juste un empereur, puis 99% du monde, c'était des vulgaires roturiers, parfois édentés. Bien, souvent édentés.
Comment t'appelais ça? Un clétus?
Un clétus, oui, exact. Fait que, ben c'est ça, tu sais, l'imaginaire, c'est une chose, la réalité médiévale, c'en est une autre. Là, évidemment, on s'entend, on est dans la musique, c'est de l'art, on rentre vraiment dans l'imaginaire à soi. Et, ben ça a notamment motivé la question de la semaine, mais avant de la question de la semaine. Je vais prendre le temps de saluer les auditeurs qui écoutent depuis CJMD à Lévis. Salutations également à ceux qui écoutent depuis Seyfret dans le Grand Nord et à CIBL pour la région Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas.
Yes.
Et je disais justement, thématique médiévale. En fait, là, on a deux affaires. La question de la semaine et le sondage. J'irai peut-être avec la question pour aller avec le préambule qu'on avait.
Oui, tout à fait. Mais la question de la semaine, de quel royaume médiéval auriez-vous voulu être le monarque?
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. J'ai pas pensé encore.
Puis le monarque, là, c'est celui qui règne. Là. Ça peut être l'empereur, ça peut être un petit roitelet. Quelqu'un en position.
Roitelet. Roitelet. Oh, oui.
C'est tellement laid. Hein? Écoutez le souterrain.
Oui, j'ai hurlé dans mon char.
Ouais. Ben, tu sais, c'est comme en anglais, le petit kingdom.
Oui, c'est ça. T'sais? Ben, tu sais, ça peut être, tu sais, pas le petit boss des Bécos, là, non, mais c'est vraiment là, quelqu'un qui règne, là, qui décide de tout et qui n'a... Mm-hmm. Qui a peut-être même un fou, une folle du roi, un conseiller. Là. Yes. Comme qu'on voit dans les films.
Exact. Fait que, ben c'est ça, on vous demande votre opinion. Vous pouvez aller répondre sur la page Facebook du show. On fait un retour en fin d'émission là-dessus. Et je réponds pas tout de suite. On répond-tu tout de suite?
Pas moi.
Non, OK.
Tu peux répondre si tu veux. Moi, j'avais
non, en fait, ben, c'est, non, ça me va qu'on réponde pas là. Je vais avoir le temps de penser.
C'est ça.
Ben, j'ai déjà pensé, puis je suis pas seté.
Ouais, mais toi, ta tête d'historien doit probablement travailler très fort.
Oui, mais tu sais, en tout cas, j'ai quelques préférences, mais
bon,
ça.
Ben, OK.
Bref, c'est ça, on fait le retour en fin de show là-dessus et ça nous amène aussi au sondage.
Ouais.
Donc, vous êtes amenés à aller voter entre deux chansons, puis on va faire jouer le choix du public. J'ai juste le choix du public avec...
Non!
J'étais pas votre sécheuse, là.
Non, c'est vraiment le choix de l'audience, de l'auditoire.
Bruno Blanchet sort de cette tête.
On a Belloré de Valley of Giants. Mm-hmm. Giants. Et on a Véhémence, mais ce n'est pas. C'est Par le sang versé. OK?
Oui.
Puis ça, c'est.
C'est sur pas le nouvel album.
Non, c'est ça. C'est le vieux.
C'est ça.
Épopée, deux points, Par le sang versé.
Yes.
Donc, c'est ça, vous avez le choix. Donc, vous allez sur la page d'Ars Macabre et puis vous allez choisir.
Yes, puis je dis ça comme ça. Si vous voulez entendre parler du dernier album de Véhémence, on en parle dans le souterrain.
Ouais.
D'ailleurs, c'est la chronique de PY qui va être aussi là à soir avec nous.
Oui.
Donc, ça m'amène au contenu du show. Qu'est-ce qu'on a à soir? On a, premièrement, la chronique bière de Sarah. Ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous aurez vu les choix pour ce soir. Il y a des bons choix là-dedans.
Hey, j'ai été tout en légèreté. C'est le printemps s'en vient. Écoute, quand je suis débarquée à Boîte-à-Bière, là, faisait beau soleil, puis tout fondait. Fait que je me suis laissée inspirer... inspiré par ça, malgré qu'il y a des bons starts qui sont sortis quand même, mais je me suis gardé une petite chaîne.
Good. Donc, c'est ça, la chronique bière de Sarah. Comme je viens de vous dire, il y a PY qui va être là pour une de ses chroniques de dépoussiérage ou la filière. C'est la filière qu'on appelle ça.
Dépoussiérage.
Ouais, j'allais dire un dépoussiérage, mais non, c'est pas ça. donc, c'est ça. Je veux également, je viens de le voir à ma droite, là. C'est parce qu'il n'est pas en studio avec nous autres, mais je veux saluer le punk. Salut, man! Yes, la punk qui est à distance, mais qui va coordonner nos lives ce soir. Donc, il est salué, chapeau bien bas.
Oui.
Et c'est quoi l'autre affaire, je voulais dire? Bordel, j'ai oublié. Mm. Ah oui, le retour de Mayhem.
Oui, c'est clair.
Il faut faire un retour sur le show de Mayhem parce que c'était le grand retour de Mayhem au Québec, notamment à Montréal, ça se passait hier. Il y a beaucoup d'auditeurs. En tout cas, moi, j'ai vu ça passer dans mon feed. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui sont allés.
Beaucoup.
Et je vous rappelle qu'on a un blog, en fait, pour Ars Macabra. Ça s'appelle ArsMediaQC, évidemment.com. Et il y avait Corinne qui est allée faire des photos et Florent qui ont fait un article, justement un résumé de la soirée. Je vous invite à aller lire ça si jamais vous n'avez pas pu, comme moi ou comme Sarah, assister en personne. Mais en tout cas, les commentaires que j'ai eus, ça a été un beau happening.
Oui, c'est ça. Puis il y a eu Midnight qui s'est fait voler une guette.
Oui, ça, j'ai partagé. Là, j'ai vu ça passer après le show.
Puis je suis comme, bon, on n'a peut-être pas le temps à jaser, mais ça vaut la peine d'au moins effleurer le sujet.
Oui, d'ailleurs, c'est ça. Comme Sarah dit, allez sur la page de Midnight sur Facebook. La guitare en question est postée. Et puis ça, là, sérieux, c'est pas la première fois là, qu'il y a du monde à Montréal qui vont voler des bennes pendant qu'ils jouent. Il faut vraiment être lâche, là.
Pas juste lâche, parce que, tu sais, t'as full de chance de te faire pogner, là, en plus.
Oui, parce qu'en plus, là, c'est une guitare, tu sais, la photo est là, je veux dire, elle est pas neuve, là, tu sais, il y a des stickers.
La police va débarquer d'un pawn shop juste à côté, là, puis ils risquent de la retrouver, là, en tout cas. Mais, tu sais, c'est, oui, lâche, puis en même temps, c'est... voler, à la base, c'est un manque de respect total, mais tu te dis, à quel point c'est... Même s'il avait volé, j'en fous d'argent, il ou elle, ben ça reste qu'un instrument de musique, c'est tellement personnel. Ben oui. Tu sais, je veux dire, ça vaut plus que
c'est
l'argent.
C'est une valeur sentimentale.
Exactement.
Oui, je pense exactement comme toi là-dessus. Puis tu sais, j'ajouterais là-dessus, quand t'es en tournée, là, t'as trois affaires sur toi. Tu sais, t'as ton portefeuille, t'as ta guitte.
Puis ton passeport.
T'as tes bobettes. Puis tu sais, ton portefeuille, tes papiers, mettons. T'as ta guide, ton linge.
Tu m'aimes à ça.
Tu te fais voler un des trois, c'est comme Chris. En plus, tu sais, tu fais des shows avec ça. Là.
C'est ça, là. C'est une tournée nord-américaine, là, leur affaire, là.
Oui, puis toute la marde pour se revirer, pour se trouver un instrument pour asseoir, parce qu'asseoir, ils giguent ailleurs, là, tu sais. Fait que. En tout cas, si vous voyez ça passer, là, c'est sur la page de Midnight. Donc, avisez, j'imagine, soit le groupe ou la police, là, c'est rendu là.
Un des deux, gagnent d'une façon ou d'une autre.
Tu peux pas confondre la guitte, là. Tu sais, je veux dire.
C'est assez belle, en plus.
Oui, oui. C'est un beau modèle. Moi aussi, quand j'ai vu la guitte, j'ai fait. Ah, c'est-tu que c'est poche, là? J'ai fait. Ah, c'est donc une belle guitte. Mais bon. Donc, c'est ça. Pour ce qui est du retour de Mayhem, allez voir ça sur Ars Media QC. Donc, c'est pas mal ce qui fait la poutine d'intro. Fait que nous autres, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat. Toujours à l'écoute d'Ars Macabre, épisode 252. Et là, ben nous autres, on s'en va en musique à l'instant. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
On s'en va entendre. Là, j'ai la main sur le cœur.
Les boches!
Blind Guardian. Blind Guardian, c'est un... En fait, pour celles et ceux qui ne savaient pas, c'est allemand. Ouais. Et donc, en 2002, A Night...
D'où les boches.
En 2002, A Night at the Opera, ils ont sorti la pièce qui s'intitule The Maiden and the Minstrel Night.
Et c'était donc un des... OK, excusez.
Pas grave.
Un des rares bands de power metal que je suis capable de me claquer un album au complet, oui.
Ben, ça me surprend pas.
Écoute, c'est ça. Mais c'est comme ça. Je disais à Sarah Ardon, tu sais, la voix du chanteur, puis le contrôle, la maîtrise de sa voix... Sérieux, ça le fait.
Ben c'est ça. Puis on disait qu'il était pas jeune.
Non, c'est ça.
Puis on se demandait, coudon, tu sais, quelle année ça a commencé Blind Guardian? 86.
86, ouais.
Ouais. C'est ça a été formé en 86. Puis c'est ça. C'est j'étais pas née.
Ouais. En effet. Ben moi oui, mais
ben,
pas
j'avais, toi. Ben j'avais. Ouais. Ben tu sais, je suis née en 88 quand même, mais tu sais.
Okay.
Reste que. Là,
non, mais c'est un ben. Je me rappelle déjà dans les années 90, le ben avait déjà acquis une notoriété là, à l'international.
Puis, tu sais, les membres sont là pas tous, là, mais sont, tu sais, mettons, le bassiste, mm-hmm. guitariste, et ouais, c'est ça, c'est là depuis, depuis le début. Annecy, ouais, c'est ça. Depuis le début, puis il y a juste le percussionniste, en fait, bagpipes, flutes, drums, percussion, qui est là depuis 2005.
Okay.
Mais sinon, c'est comme presque tous les membres originaux. Fait que c'est un bon vieux band solide.
Ça, c'est cool parce ouais. que je sais pas pourquoi aujourd'hui les bands durent moins longtemps ou. En tout cas, il y a quelque chose que ces gars-là, ils ont compris que, tu sais, des bands modernes n'ont pas compris pour
je sais pas, mais tu sais, la bonne vieille génération de, du mariage, là, dans le sens que, tu sais, on est ensemble et on va se toffer, tu sais. Tandis que y a, la génération actuelle ouais. a plus de facilité à faire « fuck you, je vais aller ailleurs ».
Ouais, mais je pense que c'est pour qu'un groupe dure longtemps de même, t'as pas le choix que ça soit des chums avant d'être les gars du band.
Ah, oh, ça, c'est... Ouais, je suis pas mal sûr. Ouais.
C'est pas une relation strictement, entre guillemets, professionnelle. Tu sais, c'est... En tout cas, je pense que ça... Du moins, ça doit aider.
Ben, j'imagine.
Ça, c'est sûr.
J'imagine.
Fait que c'est ça. Je vous rappelle, question de la semaine, on vous demande, en fait, c'est quoi... De quel royaume vous auriez aimé être le monarque à l'époque médiévale? Il faut aller répondre à ça sur la page Facebook. Puis là, ben, ça m'amène, t'as qu'à aller dans un vieux pays, parce qu'évidemment... Il y a le château de Canette à Saint-Jean-de-Dieu, mais on s'en sac. Hein? Non, mais tu sais, c'était un village pas loin de chez
Canette.
Nous. Ils ont recyclé plein de canettes, puis tu sais, ils ont fait un château avec ça. Mais je veux dire, maintenant, on s'en sac.
Ben.
Fait qu'on va en Europe. Et là, ça nous amène avec le retour sur Parole de métalleux, qui est notre un des podcasts qui est partenaire de l'émission. Et comment ça fonctionne avec Parole de métalleux, c'est qu'on envoie une question à l'invité de Asmode à toutes les semaines ou deux semaines. Puis, ben, il fait la job de poser la question. Le Ben répond, puis on fait un retour. La semaine dernière, c'était Tarasque, le groupe qui était oui. en entrevue. À ne pas confondre avec Tarasque de Québec, début des années 2000, qui n'existe plus, là.
Ah, OK.
Donc, c'est ça. C'est un Ben français. Hein? C'est du sud de la France, c'est sûr.
C'est sûr et certain, ouais. parce que bel accent.
Yeah, y a l'accent que j'adore.
Ouais.
Donc, ben, c'est ça. C'était quoi la question qu'on demandait?
La question qu'on demandait, en fait, c'est que ben, c'est un projet, sont deux là-dedans.
Oui. Que, ah, attends un peu, c'est vrai, on a l'extrait.
Ben, on a l'extrait, mais oui. OK, pose la question dans l'extrait.
Il la pose dedans, oui.
Bon, allons-y, ça va être plus clair.
Pour éviter la redite. Fait que c'est le moment d'aller entendre le segment Parole de métalleux.
C'est l'heure de la missive de Nouvelle-France avec l'équipe d'Ars Macabra.
Et voilà la question qu'ils ont concoctée. Donc, je la reformule un peu pour que ce soit plus clair. C'est pas exactement leur mot, mais l'idée est là. À l'écoute de votre musique, on comprend la direction que vous empruntez pour le projet. Entre guillemets, on sent que c'est du black, on sent où tu veux mener ta barque vers une certaine ambiance, mais comment envisagez-vous pour repousser les limites de cet aspect pour votre performance à venir? Il manque quelque chose. Est-ce que c'est issu du mastering ou de la production? Comment aller au-delà de ces problématiques?
Alors, je pense que déjà, ça vient de mon manque de compétences en mixage, ça c'est sûr. Ensuite... Parce que le mastering, j'en suis assez satisfait, mais c'est vrai que j'aurais pu faire les choses un petit peu mieux au niveau du mixage. Ensuite, je pense que je me suis trop, j'ai pris une direction, mais j'ai pas poussé assez loin. Tu vois, je pense que je me suis limité en faisant le choix des compositions ou des riffs, etc. Je suis assez content quand même de l'album, mais je pense que j'aurais pu aller plus loin, peut-être prendre plus de risques. Voilà, je pense, ce que je regrette un petit peu à la limite, c'est le manque de prise de risque que j'ai eu. J'ai pas voulu utiliser de samples, j'ai pas voulu intégrer des parties au clavier par exemple, pour travailler un petit peu les ambiances. J'aurais pu changer d'accordage, intégrer de la 7 cordes, j'aurais pu varier un peu plus le chant. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire, que j'espère faire en tout cas par la suite pour développer encore plus l'univers que j'ai créé. C'est vrai que là pour le premier album, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'épuré, pas trop chargé, avec des compositions très rentre dedans. Voilà. J'ai peut-être un peu accentué le côté un peu punk qu'on peut retrouver dans les groupes justement de métal noir québécois, tu vois, comme Forteresse ou Déléter. Ils ont bien ce côté punk et très rentre dedans avec des grosses mélodies un petit peu entêtantes. Et c'est vrai que il y a cet aspect là. Et j'ai pas assez développé l'aspect très plus noir que j'aurais pu donner. En fait, pour moi, je commence vraiment à le développer dans la dernière compo, dans Rituel. C'est le morceau que j'aime le plus dans l'album. Et en fait, il est peut-être plus, il est pas forcément, on va dire qu'il est, il est peut-être moins réfléchi, moins sobre et en même temps assez pur, tu vois. Et du coup, je pense que c'est cette direction-là que j'aimerais bien donner. Et bien sûr l'étoffer, parce que j'aime bien les belles productions, j'aime bien avoir un son qui est agréable, etc. Et c'est pour ça que je travaille vraiment là-dessus pour essayer de m'améliorer à ce niveau-là.
C'est une très bonne réponse. Tu sais que l'équipe d'Ars, enfin l'animateur d'Ars Macabra, c'est un des mecs justement de Forteresse. Donc j'attends avec impatience son retour. En attendant, on pourrait retrouver Ars Macabra sur paroledemetalleux.com, rubrique Ars Macabra, et on vous salue le Québec.
Salut Asmoth. C'est ça, retour sur la question. Je trouve que c'est tout à son avantage de reconnaître ses limites puis de vouloir aller chercher.
Oui.
Tu sais, de l'aide où toi, t'as une faiblesse ou peut-être juste un manque de connaissances. Tu sais, je vais donner l'exemple que je donne souvent, c'est tu vas-tu chercher un vrai drummer session ou tu prends un beatbox?
C'est ça.
Tu sais, tu peux prendre un beatbox puis ça va faire la job, tu vas te démerder. Ça va-tu être aussi bon qu'un vrai drummer qui t'appoche les tambours? Je suis de l'école qui croit que les tambours sont mieux. Mais tu sais, il y a des projets que ça fait là, d'avoir du beatbox, puis tu sais, je suis pas en train de bitcher là-dessus. C'est un choix qui se défend, sauf que tu sais, quand tu commences un projet, t'expérimentes, t'essayes de trouver ton son, ta direction. Comme on disait, tu sais, la direction, on l'entend là, du groupe.
Ouais.
Tu sais, on sait où c'est que ça veut aller. Il manque comme un petit coup de pied au derrière de plus. Fait que d'envisager en tout cas d'aller chercher des gens compétents là-dessus pour aller rehausser la qualité de la musique. Il faut que la musique, elle passe avant ton ego.
Oui, puis honnêtement, ce gars-là, de la façon dont tu parles, c'est pas un ego surdimensionné, le sens que, tu sais, c'est vraiment, je suis vraiment contente d'entendre ça. Puis tu sais, la question aurait pu sonner péjorative, puis c'est pas ça qu'on voulait non plus, c'est qu'on l'entend, puis on sait où c'est qu'il s'en va, tu sais, on le sait qu'il l'a dans sa tête, puis où est-ce qu'il veut s'en aller, puis comme je disais, moi, ça me plaît. Pis, mais tu sais, c'est ça, qu'est-ce que, tu sais, dans le futur, je pense qu'il a très bien expliqué, là, qu'est-ce que lui faudrait qu'il fasse pour lui et pour son projet en tant que tel. Fait que bravo et bonne continuité.
On peut juste y souhaiter la meilleure des chances.
Ouais.
Donc, Tarasque, vous pouvez entendre ça sur les internets. Et sinon, Parole de métalleux, c'est disponible sur Ars Media QC. Vous pouvez aller faire un tour aussi, entendre les différents balados. Et là, c'est le moment de nous joindre pour la chronique bière. Donc, on s'en va sur les Facebook Live et les Tontubes Live de ce monde pour goûter les excellents produits du terroir.
Yeah!
Et là, on niaise pas avec la POC. Première bière.
Yes! La première bière, Kalaka de Noctem. Donc, c'est une gauze, lime et goyave. Ils ont eu d'autres, ils en ont eu une autre à un moment donné au citron confit. Mais là, celle-là, lime goyave, c'est comme tout nouveau, tout beau. Pour de vrai, la canette est comme vraiment belle en plus. Mm-hmm. 3,5% d'alcool, c'est 49 à la boîte à bière. On a un jaune.
Ça sent bon.
Ah oui, on a un jaune orangé, mais c'est teinté de rose bonbon. On le voit peut-être pas. À l'écran.
Moi, j'ai la bannière, mais c'est JMD orange.
on a vraiment ces teintés un peu rose bonbon, le style cantalou un peu, là, couleur cantalou. Okay. Et donc, voilà, c'est super opaque pour le style. Normalement, moi, une gauze dans ma tête, c'est voilé ou c'est limite vrai. Clean. Hein?
Ouais.
Collet blanc gorgé de mousse, c'est généreux. Mm-hmm. Puis, c'est là tout au long de la dégustation.
OK.
Au nez très fruité, on a la lime, on a un petit côté poivré. C'est juicy, pas trop lourd. On le sait que ça va être bien acide.
Oui.
Bien acidulé.
Oui, oui, ça, ben, ça sent un peu ça, là.
Vraiment, ouais.
Mais en même temps, je veux dire, ça va avec le style, là.
Oui.
Ça, ça respecte le style
ben,
aussi.
Ben, tu sais, c'est fait pour ça, sauf que c'est plus acidulé quasiment au nez qu'en bouche. On a l'acidité qui vient botter un peu, mais tout de suite, on passe à la lime fraîche. Pas la lime chimique, hein. On
ouais, a c'est le, bon, par exemple.
Le beau petit zeste, c'est rafraîchissant. Puis la goyave qui va venir donner... Yes!
Ça le fait, ça le fait.
La goyave qui va venir donner un petit, une texture un peu smoothie. Mm-hmm. Donc, le goût tropical. Il y en a qui sont pas fans de la ça, goyave dans les bières.
Ça serait ça, le côté... parce que ça a l'air un peu laiteux. T'sais, on dirait qu'il mm-hmm. y a du lactose, j'imagine.
C'est la
que...
purée de fruits.
C'est... OK, c'est ça.
C'est clairement la purée de fruits. Okay. Parce que la gauze en tant que telle, je trouve que c'est pas... comment je peux dire? La goyave, là, c'est pas quelque chose qui va goûter intensément dans la vie. Mm-hmm. Ben, c'est pas comme la papaye là, non plus, mais en tout cas, c'est pas... ça va donner un petit côté pas trop sucré, mais un peu pêche, fraise, pommure.
Ouais, ouais.
Un peu. Ouais. C'est comme un fruit là, qui est vraiment qui n'est pas sucré, qui n'est pas gorgé de sucre. Mais cependant, pour en faire une bière, c'est bien parce qu'on a une petite finale saline, ça fait saliver, c'est l'été dans un verre. Ouais. Mais je trouve qu'il manque un petit punch. T'sais?
L'été dans un verre. Oui. Oh, oui. J'avais pas vu ça de même, mais oui.
Puis, mais il manque pour moi un petit punch, soit un peu plus acidulé ou un peu plus fruité sucré. Je sais pas.
Tu vois, c'est... moi, je mettrais plus poivré.
Poivré?
Oui.
Ben, c'est parce que c'est une gauze. Moi, dans ma tête, je veux pas m'en aller dans ce smoothie.
Ouais,
fait
ouais.
Que c'est pour ça que moi, mon côté sucré, je suis comme non, j'irais pas jusqu'à ce côté-là. Mais en tant que tel, c'est un bon produit. Puis c'est juste que dans ma tête, c'est pas assez acidulé, je pense. Il, okay. Manque, okay. Il manque le côté qui vient tirer, là. Le ouais, côté ouais. Astringent, là, qui...
Le coup de cap d'acier dans les dents,
exactement,
il est
pas là. Okay. Qui vient tirer dans les molaires, puis dans le fond des joues. C'est okay. Tel que tel, c'est quand on le sait, ça va. Ça va. Sauf que je m'attendais un petit peu plus punché.
Le côté limette est cool. Je ne suis pas le plus grand fan de lime, là, mais... Ouais. C'est bien dosé. C'est pas trop. C'est assez pour venir te pogner le fond de. Tu sais, les dents du fond, là.
Ouais. Mais, ben, c'est pour ça que ce soir, je nous ai amené des chips, lime et poivre.
Ah oui, c'est pour... vrai, t'as la petite assiette de légumes.
Oui,
ouais.
J'ai amené une petite assiette. Donc, okay. Pour vrai, là, les gauzes là, avec des chips, là, c'est excellent.
Ouais,
c'est
ouais.
Excellent. C'est sûr que vous pourriez y aller avec les sushis ou un tartare, comme je vous dis souvent, avec des bières rafraîchissantes. Mais là, avec ça, là, des chips.
OK.
Qui a le côté salé qui va ressortir. Là, puis lime et poivre, ben là, c'est comme évident avec celle-là. Là, ça va être de toute beauté. Donc,
j'ai manqué de plugger un PRE sur le tartare. Hein?
Ben, on
continue.
Donc, on continue avec la bière suivante. C'est la champagne. Du Nord. Je ne savais pas si tu allais mettre mon petit...
oui, t'as un peu, excuse-moi.
Mes messieurs, messieurs de bonne humeur en taverne.
Je cherche un autre effet là, que je trouve pas, mais je le sens au nez que je vais en avoir besoin.
Oui, oui, tu vas en avoir besoin, je te confirme. La champagne du Nord, c'est de Brasserie Vrouden. Pardon, ça, c'est à Granby. C'est une Berliner Weiss double qui a séjourné 6 mois en fût de vin rouge. Et après ça, ils l'ont affiné en bouteille pour un autre 6 mois. Fait qu'on a un 7 % d'alcool. C'est 16,99 à la boîte à bière, mais c'est un 750 ml.
Ça sent.
Puis c'est une bière de luxe. C'est une bière de luxe. Écoute, à l'œil, oui.
Vite de même, là, j'ai pas le choix de le mettre là.
Ouais,
juste au nez, là.
Oh! C'est cuir!
On est sur le cuir longtemps, là.
Sur le cuir longtemps, parce qu'au nez, là, on a des notes de fines, de levure, de pommes vertes, un peu de poire, c'est vineux, c'est léger, c'est fruité. Mais ça reste quand même un 7 % d'alcool, mais ça paraît pas. Puis, ben à l'œil, on a un beau jaune poire, on a une petite effervescence, quand même des belles petites bulles fines. Mm-hmm. Ben c'est à la manière champenoise, là. Okay. Dans, ben, je sais pas s'ils l'ont mis dans un rack, puis qu'ils l'ont tourné d'un quart de tour à chaque... je pense que c'est à chaque 2 semaines, je pense qu'il faut okay. Les tourner. Là, je me souviens pas, lancez-moi des roches là, si j'ai tort. Mais du moins, c'est nature.
Okay.
C'est nature. Et Donc, en bouche, ben, on a toujours le petit côté pomme, côté poire, c'est doux, c'est fruité.
Je trouve que ça sent corsé, moi.
Tu trouves?
Oui, ça sent corsé. Il y a de quoi de plus que le cuir, là?
Ben, c'est vineux. Mais sinon,
ouais.
Pomme-poire, une belle acidité. C'est une Berliner Weiss, hein? Fait que, tu sais, c'est une bière qui, normalement, est, c'est une petite blonde acidulée, là, en général. Aussi.
Ah ouais, c'est le côté vineux.
Ouais, hein? C'est doux, mais...
Oui, dans le fond, un petit peu. Val, tu penses quoi?
C'est... Hey, ça, c'est un coup de cap d'acier dans tes dents.
Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça pogne vraiment en arrière, c'est astringent, ouais. Ouais.
Mais c'est pas super effervescent, mais on a un côté sûr qui est là.
Ouais.
Berliner Weiss, toujours. boisé, discret, en finale. Mais c'est une bière que je trouve qui est équilibrée, qui est élégante. C'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites bulles fines. Là. J'aurais pris plus d'effervescence, on dirait, dans cette bière-là. Parce que dans ma tête, là, ça, c'était limite comme un mousseux. Là. Tu m'annonces un champagne, tu sais. Champagne du Nord, donc je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus
qu'il y ait plus mousseux. De party dedans. Là.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais cependant, les petites touches boisées, surettes, citronnées, là, vraiment citronnées. En fin de bouche, j'adore ça. Les commentaires que j'ai vus, que j'ai lus, c'était que c'était beaucoup moins vineux que la version 2019. Parce que ça, c'est, okay. C'est en version 2020, là, dans le fond, qui a été barqué, 2020. moins vineux, plus boisé, légèrement sour. Donc ça, c'est les commentaires en général qui ressortaient. Très rafraîchissant, puis honnêtement, potentiel de garde assez haute, fait que je la garderais plus longtemps pour avoir la belle bulle puis avoir que ça blende mieux.
Je la garderais pour faire effacer le goût de vin.
Ouais.
C'est comme trop.
Ouais. Ah ouais.
Ouais. En fait, je sais ce qui me.
Ce qui te titille.
Ce qui me titille, ouais. Il y a comme pas des. C'est pas des phases, c'est un genre de gang-bang de saveurs. J'ai pris trois gorgées, mais ça goûte jamais la même affaire.
Ben, tu vois, moi, j'aime ça quand ça fait ça. Parce que ça va vraiment aller stimuler toutes les parties dans ta bouche. Tu vas vraiment avoir le côté acidulé. Après ça, tu vas prendre le temps de passer la langue au palais.
Il n'y a comme pas d'ordre, là.
Ah, OK, c'est ça que tu veux dire.
Oui, oui. Habituellement, mettons, la finale de Brett ou le début de Brett. Et là, c'est comme... C'est un peu tout mélangé.
Ben c'est bretté, mais c'est très, très vineux et sûr. Ouais. Là. Mais c'est pas sûr, genre, comme une sour super intense. Ça reste citronné, là. Ouais. C'est certain que c'est plus astringent que la première.
Ouais.
Mais, écoute, avec ça, des huîtres, du risotto peut-être. Mais les huîtres, c'est super rafraîchissant. Okay. Les petites crevettes nordiques qui arrivent bientôt.
Ouais. Assurerait les fruits de mer de printemps.
Ah! Écoute, c'est ça. Ou des petites charcuteries fines. C'est ça. Ou des petites charcuteries fines. Donc, moi, je nous ai amené, je nous ai apporté des... c'est vraiment une longe de porc qui a été tranchée, séchée avec des fines herbes.
Okay.
Donc, c'est ce que j'ai apporté. Puis, un petit saucisson, le petit ménage des cochons tout ronds. Fait que ça, c'est parce que j'en avais sous la main puis que c'est vraiment bon. Mais c'est peut-être un peu intense avec celle-là, mais vraiment, là, la petite charcuterie, elle est, ma foi, excellente. Donc, Champagne du Nord de Brasserie Vrouden. Et la suivante.
On arrive à la dernière.
Where Dreams Go to Die. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est à l'abordage. C'est à Sutton. C'est sur le bord des lignes, plus bas que Cowansville.
Okay.
Double à pied, DDH. Ça, c'est fait avec Citra, Mosaïque, Sabro. Et c'est 8,5%. 6,39 à la boîte à bière. À l'œil, très orange. Texture quand même qui a l'air épaisse, mais c'est pas la plus mince, puis c'est pas la plus... pas la plus smoothie non plus.
Ça ne colle pas sur le verre. Le col de mousse colle sur le verre.
Oui.
Mais pas la bière.
Ah oui, vraiment. C'est un collet de grosses bulles.
Mm-hmm.
Et au nez, on a les agrumes et on a aussi les fruits jaunes, les fruits à noyau jaunes. Donc, on va avoir la mangue, on va avoir la pêche, l'abricot. Et en bouche, pas mal c'est la même affaire.
Prune jaune.
Oui, prune jaune ou abricot, là, pour moi, c'est vraiment similaire.
OK. OK.
Mm. Puis en bouche, ben là, on a la mangue. Après ça, on a l'amertume de l'agrume, le zeste, l'écorce d'orange, fruit de la passion.
Okay.
Et là, on s'en va sur la finale.
J'en ai encore dans le pin.
Et on y va sur la finale plus green.
Oui, hein, le côté pelure, il est vraiment ça à fin.
Oui.
Ça donne un petit côté, c'est pas aigre, mais...
Ben, c'est amer. Vraiment, ouais, là, ouais. C'est vraiment l'amertume. Et quand tu fais la rétro-olfaction, quand tu expires par le nez, t'as le côté coco du sabreau qui est là. Fait que c'est très tropical, tout en ayant un côté assez tranchant, de la finale green. C'est pas trop dank. Texture qui est quand même soyeuse. Vraiment intéressante comme bière.
Je trouve ça très, très bon. Pis c'est le genre d'affaire qui est, somme toute, peintable.
Ah oui, mais moi, ce genre de bière-là... Ah oui.
Peux-tu rappeler, c'est quoi le nom et la brasserie?
À l'abordage, okay. Ça, c'est à Sutton. Les canettes sont vraiment hautes. Cette canette-là, c'est... vous avez un... Pour celles et ceux qui ne sont pas en Facebook Live, ce sont des corbeaux. C'est une canette entièrement blanche avec des corbeaux dessus, noirs. Donc, c'est visuellement très, très beau. C'est « Where dreams go to die ».
Excellent.
Hein? Pas pire, hein? Yeah. Avec ça, moi, je nous ai fait des petits toasts Melba avec du fromage de chèvre au miel.
T'es concept avec PY, toi, là.
Comment ça?
OK, j'en dis pas plus. Okay. C'est un addon, sérieux?
Ben là, moi, je t'ai fait du fromage de chèvre.
OK. Non,
ça fit avec la bière.
Là. Je parlais de la toasts Melba.
Ouais.
J'en dis pas plus. OK, je pensais que t'étais au courant. OK. Suivez ça tantôt avec PY, on parle de toasts Melba.
Fait que c'est ça avec justement des fromage de chèvre au miel. Donc assez le fun.
Excellent. Un gros merci, Sarah.
Hey, ça fait plaisir.
La chronique bière d'As Macabre vous a été présentée par la boîte à bière, située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier, Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
Merci, Nafre. Et je vous rappelle, pour les fans d'Hurlement sa toundra, c'est la thématique païenne ce soir. Donc, à partir de minuit à CGMD. Et là, nous autres, on s'en va en musique à l'instant avec un album qui est une... Disons-le, là, c'est même pas une mornif, là, c'est une méga taloche auto-reverse dans la face.
C'est roundhouse chic!
Ah ouais, ça finit juste pas, là. La première fois que j'ai écouté cet album-là, j'ai fini l'écoute, j'ai fait un peu, là, faut que je réécoute, il y a comme trop d'affaires. Ah. Donc, c'est avec plaisir qu'on s'en va entendre quoi, Sarah?
Son of Fair, ça c'est français. 2014, l'album s'appelle Offertoire et nous on s'en va écouter Chevalier Maudit.
Oh yeah!
Hey, c'est fou!
Comme je
le
disais,
son de la guitare à la fin, incroyable.
Mais comme je disais, avant la pièce, là, l'album au complet est excellent.
Bon, ben, je sais quoi écouter en revenant dans le char.
Yes! Et là, ben, on le sort directement du garde-robe, de la Crimée. On s'en va jaser. Happy Why! Attends un petit peu, je viens de faire une gaffe.
Quoi?
À qui qu'on va parler?
Monsieur Pierre-Yves! Bédard!
Donc, salut, man, comment ça va?
Ça va bien,
yes, ça oui. Va bien, ça va super bien. Et là, en fait, je voulais valider avec toi. Dans le fond, encore une fois, tu nous arrives avec trois extraits, comme on aime bien dire. Tu t'es fié sur quoi, là, cette semaine?
Ben, en fait, je me suis fié sur les trois faits historiques que je vais vous jaser et, bien évidemment, comme d'habitude, certains bons liens alambiqués. Mais avant de commencer la chronique, je tiens à saluer les talents de comédienne de Sarah.
Ouais, hein? J'ai su ça pendant la toune.
qui était dans l'habile subterfuge avec les taux Melba, mais on va y revenir un petit peu plus tard.
Yes.
C'était difficile. Ouais. Moi qui ai tellement pas poker face dans vie que là, c'est comment ça?
Puis là, t'as un petit peu moins de cheveux pour te cacher. Fait que,
non, c'est clair.
Donc, ben écoute, on va y aller avec ton premier fait. Yes.
Alors, le 24 mars 1961, pas aujourd'hui, mais demain, c'est la création de l'Office de la langue française, qui est maintenant rendu l'Office québécoise de la langue française, qui ont récemment sorti leur nouveau slogan, et je cite, « Parce qu'un français de qualité, c'est bon pour les affaires. »
Ouais!
Y a-tu un F majuscule ou minuscule au début, tu sais? c'est pas, hein? Il aurait pu se forcer.
C'est, ouais. Ouais, et c'est l'Office québécois de la langue française.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais.
OK. Mais
alors, lors de sa création, le but de cet office-là, ben, c'était d'améliorer le français parlé et écrit au Québec, qui était menacé par l'omniprésence de l'anglais. Donc, on se rappelle, en 1961, ça fait pas si longtemps que ça.
Ouais, ouais. Il y a encore juste les boomers du PQ qui ont ce discours-là. Là.
Ouais. Ben,
ouais.
Ouais.
Oui.
Oui.
On n'est plus là. Le français est en danger, là.
Ben, non. Par contre, à l'époque, ça avait raison d'être dans certains endroits parce que, notamment dans des usines et tout, tu sais, à l'époque,
les Anglais
ça avait.
Travailler.
Oh, non, mais c'était la langue, là. Je veux dire, c'est... Si je restais à Alma, moi, un bout, puis je veux dire, il y a un quartier anglophone. Là, puis...
Ah, c'est-il aussi, il y a une école primaire anglophone.
C'est ça. Fait, à une certaine époque, c'était effectivement peut-être plus juste de parler de ça. Aujourd'hui, c'est un peu, disons-le, dépassé. Là. Mm. Tu sais, aujourd'hui, si t'es pas bilingue, tu pars avec une prise, là. T'es pris au Québec. Là.
Ben, généralement, c'était.
Puis encore là, t'es pris dans ton salon, puis il y a des affaires sur Netflix, tu peux même pas écouter.
Ben, en général, ceux-là qui parlent pas, ben, en tout cas, ils ont. Parle pas anglais, ils ont rarement Netflix. Là. Oui, ils l'ont, là, mais... Et...
Écoute, je te laisse aller avec ton petit paquet.
Alors, au départ, l'Office de la langue française... Alors, au départ, l'Office de la langue française était composé de seulement trois personnes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'on l'a vu, la photo tantôt, pour les gens qui sont en live.
Oui.
Ils ont fait la création de lexique vocabulaire en lien avec certains domaines d'emploi. Fait que, tu sais, comme tu disais, les usines, les parties mécaniques et tout ça. Et depuis un certain temps, ben ils ont l'autorisation de franciser des mots anglais. Alors, je suis allé chercher certains derniers mots qui nous ont sortis. Alors, le mot... excusez. Le mot « lockout » est un mot français. Le mot « kinball » est aussi un mot français. Et ils ont fait des petits bijoux comme « lèche-cul ». Hein? Et maintenant, « ruine babine », qui est un mot français pour dire l'harmonica.
Ouais. Mais, ouais. Ça, par contre, ça aussi, il y a une explication historique, là.
Ouais.
À l'époque, ta ruine babine était en bois. De la bave sur du bois, ça fait quoi? Ça mouille. Tes lèvres qui frottent là-dessus. Écoute, tu finis avec des ampoules, là. Ça portait bien son nom.
On
est loin.
Tout pas fait.
Hey, on est loin des petites honneurs à 20$ là, chez Denis.
Les Music, Marine Band, là, ouais, c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Et là, côté musical, je me suis dit, s'il y a un endroit où la langue française dans les shops est maganée, ben, c'est un peu dans ma région natale. Alors, je suis allé avec un band bien local et je parle bien évidemment de Triskel. Triskel qui a été créé en 2002 à Saint-Honoré. On a déjà parlé de Saint-Honoré dans le vent dans les autres chroniques. Hein? Yes. On voit le fil conducteur. Hein? Triskel font du pagan black. Puis, ils ont plein de... Leurs albums, c'est quand même de la musique très, très raw. Tu sais, il y a même un des premiers albums, Les Murmures de la forêt, qui a été enregistré dans le bois. Tu sais, fait que, tu sais, il y a comme un culte autour de cette band-là. Un jour, on entendra peut-être des nouvelles compositions. Alors, on salue Scogan, hein, qui est dans la salle.
Yes. Salut, Ben.
Comme extrait, ben, j'ai choisi, parce que oui, on magane le français, mais nos chansons ont aussi des beaux titres très éloquents. Alors, j'ai choisi la chanson « Les murmures de la forêt noire ».
J'espère revoir ça en show.
Ah, ben peut-être au prochain Scogan, on ne sait pas. On sait que dernièrement, on a parlé aussi dans une autre chronique qui pratiquait quand on a parlé des pères-fils. Hein, fait que, on ne sait pas.
Yes. Et là, ben ça nous amène à ton deuxième fait.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sachez qu'aujourd'hui, le 23 mars, nous sommes la journée internationale de la toast Melba. Hein?
Et là, ben, écoute, j'ai pas le choix.
Yeah.
Oui.
Alors, le 23 mars 1887, on a assisté à l'invention de la toast Melba. Et ça vient de où? Ça vient de Dame Nelly Belma, hein, qui était une chanteuse d'opéra australienne qui s'appelait Ellen Porter Mitchell. Alors, petit lien avec toi aussi, Sarah, qui aime bien chantonner de temps en temps.
Tout à fait.
Alors, Madame Melba était une amie proche du grand chef français Auguste Escoffier, qui était nommé le roi des cuisines, le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois. Donc, lui, il cuisinait pour plusieurs personnes très, très connues. Et il a écrit « Le guide culinaire », qui est un livre supposément culte dans le domaine de la cuisine. Et connaissant Madame Melba, qui avait un léger surplus de poids, ben, lui, il a eu l'idée pour combattre son obésité d'inventer la toast Melba, voilà.
Écoute, je vais pas te couper ta chronique, là, mais c'est en 1887?
Oui, 97, oui.
OK, je dis ça de même, là, mais en 1887, il y a le chimiste roumain Lazar Edelanou qui a inventé le cristal meth, qui fait aussi maigrir. Écoute, sais-tu pourquoi j'ai ça? C'est parce qu'il y a une infirmière à la job hier qui m'a demandé ça datait de quand le cristal meth, comme si j'avais une tête de crackhead. Là, je suis allé chercher l'info, tu sais.
T'avais la réponse, ta maman.
T'as dit ça, esti, ça m'a sonné une cloche. Fait que bref, 10 ans avant toast Melba, il y avait le cristal meth qui d'ailleurs à l'époque venait dans des genres de petites affaires de vie. Et si tu prenais ça comme inhalateur. Ah. Fait que ouais, hey, la punk, il est cloche, le cristal meth.
Ben, écoute, on le souhaite.
10 ans plus tard, pour maigrir, on avait les toasts Melba qu'aujourd'hui, on met du bon fromage gras dessus.
C'est ça. Ouais. C'est à ça que ça sert, Melba.
Yeah.
Oh. Puis c'est quand même le même cuisinier qui a inventé aussi la pêche Melba. Donc, il voulait l'aider à maigrir, mais il a quand même créé un dessert avec une pêche, de la crème glacée puis un coulis par-dessus de fraises.
Ouais, donc, c'est des fruits.
c'est du fruit, des produits laitiers.
Ouais.
Oh là là.
Alors, musicalement, je me suis dit, pour bien fitter avec la toast Melba, ça me prend une musique à la fois douce, croustillante, un peu intense et qui goûte un petit peu le brûlé. Et je parle bien évidemment d'Anal Natrak.
Écoute, ça c'est du bien, mon homme, comme on les aime.
Hey, ça, là, ce segment de chronique-là m'est destiné. Là, sérieux? J'adore
Melba.
Ben, Melba, la madame qui aime manger, chanter, puis Anal Natrak. J'aime tout ça. Okay.
Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Anal Natrak, c'est un duo anglais un duo de deux gars, évidemment, qui est né en 99. Et j'ai choisi une des chansons, encore un autre lien pour toi, Sarah, mon Dieu. Quand j'ai commencé à faire de l'impro, il y a 10 ans, j'écoutais cette chanson-là pour me crinquer. On va l'entendre, Forging Towards the Sunset, de l'album Vanitas, en 2012.
Et là, tu sais, quand mes voisins m'énervaient, là, qui rinquaient ça dans le prélard, je les entendais plus.
J'avoue que passer 11 heures, ça veut dire ta gueule. Ça nous amène à ton troisième fait.
Le 23 mars 1998, le célèbre Jack Nicholson gagne l'Oscar du meilleur acteur pour le film « As Good As It Gets ». Et qui s'appelle en français « Pour le pire et pour le meilleur ».
Oui,
ce film-là, Jack Nicholson joue un écrivain très, très malavenant qui a beaucoup de toc. Donc, il utilise le savon juste une fois pour se laver les mains. Il marche pas sur les craques de trottoir. Il déjeune toujours au même resto, à la même table, avec le même mets. Et c'est là qu'il rencontre la serveuse.
Ces clients-là, c'est les plus chiants, là.
Ben, c'est...
Hey, j'ai travaillé longtemps dans un restaurant. Je déteste ce genre de clients-là.
Ben, imagine Jack Nicholson.
C'est sûr.
Ouais. Ce qui est particulier dans ce film-là, c'est que c'est vraiment un malavenant solide. Il décrit comme un misanthrope et homophobe. Par contre, il écrit des best-sellers ultra sentimentaux. T'sais. Fait que c'est là qu'on voit l'eau de rose du film. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier film qui a remporté le meilleur acteur et la meilleure actrice. Le dernier qui avait fait ça, c'est Le Silence des Agneaux. Donc, c'est quand même.
Clarisse.
Ouais, c'est quand même une étape importante d'un film. Et il aurait aussi pu peut-être gagner le meilleur film. Mais en 98, qui a gagné le score du meilleur film?
98?
J'en ai aucune idée.
Titanic.
Ah, bon.
Ouais. Écoute, j'étais un peu... Peut-être un peu...
Ouais.
C'est un peu décevant. Non. Mais je me rappelle qu'à l'époque, c'est vrai, ça avait fait un gros tollé. Mais en même temps, ils ont tellement mis de pubs. Tu sais, on se faisait rentrer le Titanic dans la gorge partout, là.
Et puis dans le temps, il y avait deux cassettes, hein?
Puis en plus, c'était Leonardo, là, tu sais, je veux dire. Ça avait pogné en innocent, là.
Ben oui.
Éclipsé notre bon vieux Jack, fan des Lakers, hein? Je sais pas, toi qui es fan de ballon panier. Tu sais, Jack Nicholson, c'est un fan des Lakers, là. Il fait prendre des journées de congé, de tournage quand il y a des games, parce qu'il va écouter la game.
Il y a moyen,
mais tu sais, ça te donne une idée de comment c'est un fan. Et puis en tant que fan des Bulls, a l'air de moyennement approuver ça.
Ben, on s'entend que les Lakers, depuis des années, ils ont une équipe ultra forte, là, même en ce moment LeBron, avec LeBron, Davis, ça roule pas mal. C'est un gros club qui ont de l'argent. Et là, musicalement, je me suis dit, Jack Nicholson, un écrivain malavenant, ça me rappelle un autre film qui est, selon vous...
Shining,
où il jouait Monsieur Torrance. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'ai écouté la suite en fin de semaine.
Je l'ai écouté, moi aussi.
C'est pas vrai.
Je te jure, j'ai écouté Dr. Sleep cette semaine.
Moi, je l'ai écouté, ça fait 2 ans, là, mais bon.
Et que t'es mainstream!
Non, mais Chris, j'étais dans l'avion, c'était la seule affaire qui avait l'air cool, oui.
Bon.
En tout cas, c'est ça. Je l'ai écouté il y a 2 ans. Mais il est quand même bon. Je sais pas si mon souvenir est mauvais, mais j'avais trouvé ça quand même correct.
Très bon.
Oui, j'ai bien aimé ça aussi. Les références beaucoup avec l'ancien, les personnages qui reviennent ressemblent beaucoup. Les acteurs ressemblent beaucoup aux acteurs du temps. Puis il y a des belles références avec l'hôtel à la fin, le labyrinthe. C'est vraiment excellent. Mm-hmm. Donc, qui dit Shining, il y a un band célèbre qui s'appelle Shining aussi. Alors, c'est un groupe suédois qui est né en 98 et le chanteur Niklas de ce groupe-là, c'est un bizarre. Là. Il y a des comportements de mutilation sur scène. Il se coupe, il se brûle, ouais. Il dit qu'il aime ça le suicide, puis lui, il tire une certaine fierté de savoir qu'il y a des gens sur sa musique qui se sont peut-être suicidés. C'est qui ce gars-là?
C'est Channing Tatum!
Ah, oh, sac! Le punk à Levin! Wow!
Oh mon Dieu!
Hey, d'ailleurs, petite, je sais pas si tu as vu ça passer, là, mais il fait souvent ça, Gvarfort, de sacrer tout le monde dehors puis réengager du monde. Là. Encore une fois, il a sacré tout le monde dehors pour le nouvel album, nouvelle tournée. Et ils ont publié une photo du nouveau drummer du band. T'as-tu vu ça?
Oui, oui, oui. Le gros blaster. Ça va être extrêmement cool. Niklas Barker.
Oui. Oh my God, ouais. On a Michel Perron d'ailleurs qui nous écoute, qui nous regarde et qui fait hashtag lame de rasoir.
Ouais, ouais. Mais écoute, Shining, là, sont venus jouer à l'Anti avant la pandémie, là.
Ouais.
Puis ça avait été un excellent show. C'était un excellent show, puis tu sais, j'avais rien à dire, là. Tout était bon, le son était bon. C'était Icedale qui était à Git. Sérieux, c'était Icedale de Enslaved, là. C'était. C'était juste sa coche, là.
Fait que... Alors, on va aller écouter l'extrait de l'album de 2007 qui s'appelle 5, Amstad. Et faites attention à vos oreilles, ça y va.
D'Ars Macabra, épisode 252. Et nous autres, en fait, on s'en va. C'est vrai, j'allais dire, la UFC a son Bruce. On a aussi notre Bruce.
It's time!
Et ça, ben, ça nous amène au sondage avec le choix des auditeurs. Et là, ben, vous avez tranché d'une façon assez...
À la guillotine.
On dirait une élection à la poutine.
Ouais, c'est ça. C'est ça, puis je suis là juste pour représenter la partie qui
juste pour dire qu'il y a une opposition. Donc,
encore une fois, on n'a pas voté pour la même affaire, mais cette fois-ci, tu remportes le match d'une façon victorieuse. On avait Belloré ou Véhémence, et c'est Véhémence qui a gagné.
C'est Véhémence qui a gagné, mais c'est deux excellents projets.
Ah, écoute, moi, je suis vendu Belloré, donc c'est... Ça, c'est grâce à Régis qui nous fait connaître toutes sortes d'affaires.
Yes.
Puis justement, Belloré, j'avais connu ça l'an dernier, en 2021. Là, il avait amené ça dans un
nouvel album qui est excellent. Oh, là. Ça s'écoute super. Ça coule super bien.
C'est ça. Puis ben, celui-là, c'était sur l'album précédent. Okay. Mais quand même, ce n'est pas Belloré que vous pourrez entendre tout à l'heure, mais je vous suggère... Après l'émission, en tant qu'affaire, plus tard, là, vous irez écouter ça, Belloré. Mais c'est véhément ce qu'on s'en va entendre par le sang versé.
We'll be right back.
Oh yeah!
Excellent. Félicitations, félicitations. Très bonne, très bonne victoire.
Très belle victoire.
Ah oh, oui, vraiment.
Yes! Et là, hey, c'est vrai, je veux m'excuser, puis ouais, je me suis excusé en courriel, là, ben, la chronique a comme un peu finissé avec les pubs, ouais. On est parti, puis on a fait, bah, on va y aller avec ça. Ah. Mais on salue PY, puis je vous rappelle, pour les gens qui voudraient avoir plus de PY, il y a une chronique dans le dernier épisode du Souterrain, vous pouvez aller écouter. Puis justement, comme on disait en début de show, on parle notamment du nouvel album de Véhémence, parce ouais. que ça, celui-là, c'est un qui est sorti plus tôt. Et là, ben, c'est encore une fois le moment de nous joindre sur les Facebook et les Tontubes Live, parce qu'on s'en va parler à Sony. Salut chef, comment ça va?
Salutations, ça va bien vous autres?
Yes, ben oui, ça va bien. Et là, ben, tantôt, Sarah me dit, c'est-tu moi ou ben Sonny, il a une rafraîchie coupe lui aussi? Là, j'ai dit, je pense que c'est juste peigné.
C'est mon sexy self, je peux pas l'expliquer.
C'est la chemise et les cheveux coiffés.
Malade.
Ouais, mais en fait, non, effectivement, je me suis... Mais ça fait quand même un petit bout, je sais pas.
OK. Ben, écoute. Non, non, t'es beau de c'est même. Coquet, on t'aime oui. de même, on t'aime de même.
Elle l'a remarqué.
Ah. Hein? Ah, ben, c'est ça, tu sais. Sarah me dit, y a-t-il le rafraîchi-coupe? Je dis, bah, je pense que c'est peigné.
Ça m'arrive. Regarde, c'était ma douche de la semaine, je l'ai pris, c'est fait.
Malade.
T'as fait pour une semaine.
Écoute, sans plus tarder, on va y aller avec, ben, pour les gens qui écoutent pour la première fois Sony, c'est un top 5 à la Sony. Donc, sans plus tarder, on y va avec ton numéro 5.
Yes! Mais écoute, on va commencer à parler, parce que tu m'as envoyé le thème, c'était médiéval.
Oui.
Moi, je pensais, tu sais, le médiéval, Moyen-Âge, c'est comme une espèce de transition, tu sais, entre, mettons, la période plus archaïque, puis le temps moderne. Donc, j'ai été un peu dans cette vision-là d'aller de parler des proto-genres.
Oh, hey, c'est intéressant, ça!
Oui.
C'est ça, de faire un top 5 vraiment sur... Pas parce que on va dire, tu sais, c'est OK, premier band de trash metal, on va dire, c'est Metallica, tu sais. Premier band heavy metal, on va dire, c'est... Black Sabbath. Mais qu'est-ce qui a mené à ça? Qu'est-ce ouais. qui a apporté ça?
Ouais.
Donc, la grosse question, c'est toujours, tu sais, c'est l'œuf ou l'enveloppe? Tu sais, qu'est-ce qui a mené?
Malade.
Si mon grain n'est pas là, je vais essayer de m'en sortir.
On peut peut-être avoir Gino Chouinard, il est tout le temps là.
Gino Chouinard, tout le temps là. Il yes. dort à TVA, Jean.
Yes.
Il a son oreiller dans le coin.
Ben, amenez-en des petits kikals.
Ton numéro 5, t'as un petit peu, ça mérite un son.
Yes! Numéro 5, bon, on va commencer par le commencement, le heavy metal à la base, le genre metal. Donc, avant, c'est sûr, Black Sabbath qui a mis ça officiellement sur la map. Qu'est-ce qui a engendré ça? Parce que, tu sais, ça s'est passé par les petits soubresauts. On parle des années 60, t'as les mouvements, tu sais, le rock, le psychédélique qui approche. Puis là, t'as eu l'arrivée de... gros cogneur au drum. Ouais. On parle de John Bonham, mais on parle aussi de gars comme le drummer de Iron Butterfly puis de Blue Cheer, qui avait vraiment des gros beats de drum avec cette musique psychédélique-là qui avait vraiment des influences heavy metal. Ou selon moi, le premier riff heavy metal à la guitare, selon moi, c'est Born to be Wild. C'est qu'il y a assez d'enchaînement. Selon moi, ce riff-là, c'est okay. Un autre vibe de drum. Tu mets un double drum à la mettons, Motorhead, puis c'est une tonne heavy metal. Mais bon, pour mettre ça officiel, il a fallu qu'un dos travaille en cabochon, se coupe deux bouts de doigts pour finalement changer son style de playing et créer le heavy metal comme on le connaît.
Mais c'est vrai, tu sais, ce que tu dis là, la musique. Fin 60, puis la décennie 70.
La contre-culture.
Hey, la ligne est telle. C'est où que t'as mis la ligne? C'est où que c'est plus du rock? C'est où que c'est du proto-métal? Sérieux, je pense que ça va avec les influences puis les goûts de chacun. C'est ben oui, très, très dur à définir, là.
Ouais.
Tu sais, t'écoutes un groupe, t'écoutes Inagada, la vidéo de Iron Butterfly. Le drumming là-dessus est plus métal que ce que Bill Ward a jamais fait. Mais c'était la musique qui était plus espacée, plus space. Ouais. Donc, c'est cette vision-là, c'est toujours les éléments qui sortent de ça, ou justement le riff de Born to be Wild, qui est quand même... Il y a cette version-là de ce qu'allait devenir un peu le speed metal, le new wave of British heavy metal.
Mais tu dis aussi, tu sais, Bill Ward, il s'est toujours, il s'est jamais défini comme un drummer, hein? Il s'est toujours défini comme un percussionniste.
Ah, ouais.
Tu sais, en tout cas...
Ben, tu sais, mon père a étudié en percussion, OK, mais c'était un drummer. Puis justement, il voulait jouer du drum, puis son prof de percussion a dit, il y aura jamais de ça ici. Puis finalement, l'Université Laval, maintenant, tu peux avoir...
Ouais, mais ça, c'est un vieux Chris de Bucky.
Ouais, c'est ça, mais ça reste... J'ai l'impression que c'était dans les mêmes années, là.
Ouais.
C'est exactement dans les mêmes années. Mon père est en 75-77 à l'Université Laval. Fait que, tu sais, je te dis pas que, tu sais... Ce drummer-là, t'es pas à l'Université Laval.
Non, mais c'est... Moi, j'ai étudié en musique, puis quand j'ai demandé à mon prof de bass, qui est un contrebassiste dans la vie, pour parfaire ma technique de slap puis de popping, il m'a fait du slapping. C'est quoi ça? J'étais comme, asti.
Ben non.
Je te jure.
Bon,
je dirais pas son nom parce que j'ai honte. Mais c'est ça. Fait que bref, on revient à ton...
C'est ça la différence, c'est qu'il y a beaucoup, tu sais, les bouts funky, mettons, Electric Funeral, tu sais, c'est très jazzy.
Ouais.
Il est très de même à place d'y aller vraiment avec la grosse frappe, là, comme on a pu voir par après, là.
Yes. Good. Et ça nous amène après ça ton numéro 4.
Yes! Numéro 4, nouveau style qui se développe dans le Bay Area. Mon style de prédilection, le trash metal. C'est quoi qui a apporté ce style-là que je chéris tant? C'est sûr, on commence, mettons, par un groupe, on va parler de Motorhead. On écoute la chanson Overkill, ça commence avec le double bass drum. Il y a ça, tu sais, l'alliance du punk, du metal speedé, tu sais, dans l'influence, qui a d'ailleurs donné le nom à un certain groupe du New Jersey, cette fameuse chanson. Puis il y a aussi... les premières tunes qu'on peut quasiment considérer si on écoute, tu sais, dans le heavy metal, parce que là, tu sais, t'as Black Sabbath qui amène ça, ensuite t'as New Wave qui est juste découlé, tu sais, normalement, mais t'as des groupes dans cette vague-là qui ont apporté les éléments trash metal. Si on écoute Fast as a Shark de Accept, si on écoute Hellraiser Action de Raven, tu sais, il y a vraiment des éléments, tu sais, t'as quasiment le speed metal, il y a juste pas lui, il tourne le notch un peu, là.
Effectivement. Bonne analyse.
Ouais, vraiment.
Et ça nous amène à ton numéro 3.
Yes! Numéro 3, on va y aller avec le proto-black metal, qui est un autre style qui est découlé un peu de ça, mais qui est vraiment un style... Parce qu'on va dire, justement, le heavy metal qui est découlé au New Wave of British, qui est découlé au Power. Là, t'as des styles plus particuliers comme le black metal... c'est sûr, tu sais, t'as des influences dans le trash. On écoute, mettons, l'album Endless Pain de Creator, la chanson Total Death, selon moi, c'est c'est vraiment la définition d'un chant black metal classique comme on l'entend.
Ouais. C'est avec
le raspy voice. T'as aussi, mettons, c'est sûr, Venom, qui était dans un delivery avec le fameux album Black Metal. Il y a aussi L. Hammer, qui allait devenir ce Celtic Frost, le EP Apocalyptic Raids, où on peut voir cette fameuse mascotte démoniaque avec le gros shaft.
Oui, c'est ça, pareil.
Puis même cet élément-là, si on écoute ces groupes-là qui étaient moins connus, qui avaient moins de budget que les Judas Priest, les Metallica, les Slayer de l'époque, il y a aussi ce son-là qui vient que, tu sais, c'est comme une cassette Fisher-Price avec le micro dans un sud de papier de toilette dans le milieu de la planète. On écoute ces enregistrements-là, on dirait qu'ils ont pris aussi cette sonorité-là là, dans les premiers.
Mais tu sais, Show No Mercy là, de Slayer, il y a des tunes là-dedans que... Tu sais, si c'était pas Slayer, puis c'était sorti sur un autre nom, là, sans qu'on le sache, il y a du monde qui aurait pensé que c'est du black metal, là.
Mais non, moi, j'ai tout le temps trouvé que Show No Mercy, c'est un album de speed metal pur et dur. C'est à partir de Hellraiser que j'ai trouvé qu'ils ont pris leur côté evil. J'ai tout le temps trouvé que un Show No Mercy... j'ai tout le temps trouvé qu'un Show No Mercy, ça se rapprochait quasiment plus d'un... d'un Anvil un peu plus triton, on va dire.
OK.
Metal, le triton. Ou bien Exciter. heavy metal maniac, je trouve que ça se rapproche plus de cette vibe-là d'un black metal ou qui allait venir après. Okay. Mais c'est sûr que tu avais l'aspect démoniaque, tu avais les tritons, mais reste qu'avec le vocal aigu de Tom Araya à l'époque, il n'avait pas encore trouvé son range.
Effectivement. Ouais, c'est ça.
No Mercy, pour moi, c'est un album de speed metal et non pas de trash, ni même de...
OK.
Ouais, moi, c'est à partir de Hell Awaits que là, t'as l'élément black metal, puis Rain in Blood, que là, t'as juste la vélocité qui est arrivée sur un death metal après.
Ouais, ouais.
C'est autre chose, ouais.
Très, très bonne analyse. Et ça nous amène à ton numéro... c'est deux, hein?
Ouais.
Numéro deux.
Yes! Hey, je sais, je suis tellement intéressant, on en parle le plus. Là, on va y aller justement avec le proto death metal, qui est un peu le yin du yang du black, qui est plus DIY, très, on va dire, approche raw, brutale. Et selon moi, l'approche death metal est venue avec un EP aussi, comme Apocalyptic Raid de Hellhammer a influencé le black. J'ai tout le temps trouvé que Bestial Devastation de Sepultura a été la première, l'espèce un death metal des cavernes. Tu sais, il avait pas encore maîtrisé tout ça, mais tu avais tout. Et là, ensuite, tu as eu l'album Seven Churches de Possessed.
Ouais.
Encore ça, qui était vraiment un amalgame, un hybride, jusqu'à temps que là, finalement, tu as eu le bien nommé Death avec Scream Bloody Gore, que là, tu as eu l'élément brutal, l'élément qui frappe, mais tu as aussi la technicité. Et la virtuosité qui a fait que le death metal est devenu ce qu'il est devenu.
Oui, puis j'ai toujours dit que Chuck est le seul gars dont le band pouvait endosser le nom d'un style.
Oui, absolument.
Tu sais, je trouve, peu importe les styles, les sous-genres de death, tout le monde aime death.
C'est vrai.
Tu sais, c'est une référence pour tout le monde.
Je connais personne qui aime pas death. Ben, en tout cas,
moi non plus, j'ai des bons amis.
Ben, c'est ça, mais dans le sens. effectivement, moi avec, mais je pense que ces personnes-là. Je pense que les personnes, s'il y a des gens qui n'aiment pas d'être dans la communauté métal, ils se ferment la gueule.
Non, mais. Parce que... Ouais. Mais je me rappelle de mais l'onde de choc, quand Chuck est mort, il en meurt à tous les années, là, du monde. Là. L'onde de choc n'a jamais été aussi grosse que cette fois-là. En tout cas, c'est mes deux scènes sur la chose.
Bon.
Good! Et là, Sani me regarde, mets-moi le numéro 1.
Yes! Numéro 1. Je l'ai. C'est qu'est-ce qui a engendré? Ça, en fait, c'est un peu comme essayer de découvrir c'est qui le premier poisson qui a décidé de marcher en dehors de l'eau, qui fait qu'à cette heure, il faut qu'on travaille, qu'on paye un loyer puis qu'on fait tout de l'anxiété. D'où vient le new metal?
Un petit Gino Chouinard.
Oh my God!
Tu penses-tu le new metal?
Ouais.
Les origines du new metal.
Ça aurait dû jamais exister, mais c'est un autre
histoire. Je pensais que
t'allais
dire genre peut-être le power. Tu sais, j'ai acheté, mais tu sais.
Non, parce que le power, ça a été...
Ça c'est clair.
Non, tu sais, t'avais déjà Dio, t'avais déjà Judas Priest.
J'ai une théorie à la Sylvain. C'est un descendant du grunge, parce qu'il y a comme toutes les affaires poches du, tu sais, plus de solo, pas de feeling, pis tout.
Dans le power ou du new?
Non, okay. Il parle du new metal.
OK, oui, new
metal. Le grunge, selon moi, est parti d'un peu, tu sais, du punk triste, mais le new metal, si on écoute Bring the Noise de Anthrax, Public Enemy,
c'est
le premier band qui a rajouté le groove metal et le rap.
C'est ça, là.
Et ensuite de ça, t'as eu Body Count, Ice-T, qui a fait son affaire dans le trash, qui est très intéressant. Puis là, le problème qui est arrivé, c'est que t'as Pantera qui ils ont développé le groove metal.
Ouais.
Style.
Donc là, tout le monde s'est voulu à mettre des breakdowns. Puis là, tout le monde se sont mis à rapper aussi. Fait que là, ça a comme fait un espèce de sordide fornication.
C'est là.
Eu un espèce d'effet papillon. Puis c'est là qu'en écoutant ces chansons-là, en écoutant Pantera, en écoutant Body Count, en écoutant justement Anthrax, qu'est-ce qu'on fait avec Public Enemy, qui ont brisé les barrières, c'est là qu'on voit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions.
Ouais. C'est-tu Attack of the Killer Beast, l'album, tu parles?
Ouais, c'est ça qu'ils ont sorti, The Noise.
Ouais.
Puis en plus de ça, t'as eu justement les gros grooves. Puis on écoute Korn. c'était inspiré de, des groupes de Pantera à fond, puis justement, Sepultura qui se sont inspirés de ça pour Roots, que je déteste.
Ben, Roots, je sais pas si t'es de la même école que moi, mais c'est le premier album de Soulfly.
Ouais, effectivement, mais c'est... Pour vrai, je suis dans un hommage à Sepultura, puis je m'endors.
Ouais, ben, c'est pas leur tune les plus complexes, en effet.
Ben, c'est un whammy, ça fait un job, mais sinon...
Ouais.
Mais le monde trip, c'est ça. Au moins, ça a apporté ce mouvement-là qui a mené ensuite, tu sais, du monde qui ont écouté Korn, après ça, Slipknot, après ça, ils sont devenus dans d'autres affaires. Mais on peut dire que ça a aussi créé des Limp Bizkit, des Cold Chamber. Donc, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Je ne crois pas.
Non, puis... Ben, tu me corrigeras, là, mais le nu metal, ça existe ça encore ou on appelle juste ça du rock à cette heure?
Alternatif.
Ouais, mais tu sais, je veux dire, ça a comme plus le même nom.
Je pense que ça existe encore, c'est juste que.
Chris, après 30 ans, c'est plus du nu metal, t'es rendu vieux.
Je pense que ça existe même plus parce que t'as ces groupes-là, mettons, t'as comme le grunge, le nu metal, qui ont comme dérivé vers du Nickelback, des choses comme ça.
C'est ça.
Ouais, mais tu sais, Disturbed existe encore, là. Je veux dire, tu sais, le genre est
toujours
comme resté.
Mauvais.
Ben, c'est toujours aussi de la
ouais, mais Disturbed encore là, c'est comme, c'est du. Ou Five Finger Death Punch. C'est ce qu'on mais c'est du métal moderne. T'as plus le new metal comme Linkin Park, comme les parties.
Ben moi, je pense que ça a évolué de même. Papa Roach, petites affaires-là.
OK, que... toi, tu le vois comme une version 2.0,
ouais.
Mettons. OK.
Ouais.
Ouais, j'avoue que c'est... Ouais.
Moi, c'est comme ça que je le vois, là.
Ouais.
Toutes les bandes que ceux-là qui aiment Metallica et autres bandes dans des festivals puis qui n'écoutent pas de Black, pas de Death, c'est ça qu'ils écoutent.
Ouais, ouais.
Ouais, c'est de la musique de Monster punchée dans le drywall, mettons. Là,
ouais,
c'est
ça.
C'est triste. C'est triste.
Hey, mais c'est vraiment des bonnes analyses. Hey, ça,
j'ai été plus vers l'histoire parce que pour vrai, médiéval, ça ne me tentait pas de reparler de folk ou de parler des
choses.
On était déjà couvert avec le justement l'aspect païen. Donc là, j'ai été vraiment vers le proto, les proto-genres et malheureusement, il fallait que je termine avec l'abomination qui est
excellent.
Ben
un
raison.
Énorme merci encore une fois, Sonny. Ah, tu souhaites un bon... ben, on s'en parle dans 2-3 semaines. Bref, bon temps d'ici là. Le printemps va arriver. Écoute, tu vas être dû pour
les cheveux. Ça commence à fondre. Ben, Dresse, pour vrai, ça pousse vite. C'est pas drôle. J'ai quasiment hâte de caler.
Pauvre
cœur. Hey, un gros merci, man.
Oui, tu m'as présentement. Hey, bonne soirée.
Salut, Sonny.
C'était donc Sonny depuis son téléphone à poche. Et nous autres... Et là, ben, nous autres là-dessus, on s'en va en musique. C'est quoi qu'on va entendre, Sarah?
On y va avec Rhapsody!
Yeah.
Ah oui, ça, on peut pas parler médiéval sans y aller avec du Rhapsody. Le band italien en 2000, l'album Dawn of Victory, c'est connu, c'est...
Comme marcher avec une carabine, c'est connu.
C'est connu. Ah oh, oui. On va tout prendre une marche avec ça. Et c'est The Village of Dwarves. We'll be right back.
Et on vient donc d'entendre Rhapsody. Et là, ben, nous autres, on arrive en fin de show. On fait un petit retour sur la question de la semaine. Cette semaine, on vous demandait sur quel royaume médiéval vous auriez aimé être le monarque ou la monarque. Vous êtes quand même quelques-uns qui ont répondu, donc on fait un retour rapide. C'est vrai, avant d'aller lire les réponses des auditeurs, je veux remercier Sarah, je veux remercier Le Ponk qui est à distance ce soir encore une fois. Je veux saluer aussi PY ainsi que Sony. Merci à eux autres d'être là pour le show. Et là, ben, Sarah a dû quitter un petit peu plus tôt. J'ai demandé quand même avant de partir, toi, qu'est-ce que t'aimerais, ça serait quoi ta réponse à la question de la semaine? Et sa réponse était être Jarl d'un certain terrain. C'est pas de quoi de trop gros, mais avoir un petit terrain à gérer puis faire sa petite vie tranquille. Moi, je vous dirais, personnellement, mon choix, c'est, et de loin, le royaume du Danemark de Sven Tveskæg. Pas pour rien, j'ai pris ce nom de famille-là pour mon nom de musique. Donc, d'ailleurs, le personnage qui est moyennement bien illustré dans la série Vikings, Valhalla, pour ceux qui ont vu la dite série. Et là, on y va avec les réponses des auditeurs. On a Alexandre Richer qui nous dit « Le Saint-Empire romain germanique ». Et le royaume de Bavière, cela, ça a tellement de valeur, tellement c'est encore un endroit incroyable. Effectivement, puis le Saint-Empire romain germanique, on s'entend que c'est un territoire qui avait une très, très grosse influence à une certaine époque et qui régnait sur plusieurs comtés, notamment dans le centre de l'Europe. On a ensuite de ça David qui nous dit « Le roi de la montagne ». Je le vois bien sur le top de la montagne. Et Gaël qui nous répond « Royaume breton, évidemment ». Donc, Gaël qui est bretonne. Donc, on la salue. Chapeau bien bas. Merci à tout le monde qui est allé répondre à la question de la semaine. Merci à tout le monde qui est allé voter aussi pour la question sondage de la semaine. Et on termine ça, en fait, avant d'y aller en musique. Je veux vous rappeler qu'on est disponible en podcast. Si jamais vous voulez partager ça aux gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait, allez faire un tour sur la page de CJMD, c'est disponible sous l'onglet d'Ars Macabra. Je vous rappelle également qu'on a Le Souterrain, qui est le podcast officiel d'Ars Macabra, et arsmediaqc.com, qui est notre blog. Si vous voulez lire notamment le texte de Florent, notre collègue d'Ars Media, et voir des photos de Corinne pour le show de Mayhem qui avait lieu hier, c'est déjà publié, c'est disponible. Donc, un gros merci à eux, puis ben moi, sur ça, on se laisse en musique comme on fait à toutes les semaines. J'ai décidé d'y aller avec un de mes albums coup de cœur de l'année dernière. C'est un groupe qui est originaire de l'Australie. Ça s'appelle Faldir. C'est un album qui s'intitule Tales of the Dark Age et la pièce s'appelle Ethereal Gathering. On s'en va entendre ça et sur ça, je vous dis merci tout le monde. À la semaine prochaine.
the lights.